Donc je disais, il y a beaucoup d'emails, beaucoup d'SMS, beaucoup de WhatsApp, je ne sais pas pour vous. Parfois, il y en a tellement que je ne sais pas si on arrive toujours à répondre à tous ces emails, toutes ces informations, tout ce qu'on reçoit jour après jour. Il y a aussi beaucoup, toujours malgré tout, d'injustices dans le monde, de gens qui n'ont pas toujours assez à manger, de gens qui doivent se déplacer, qui vivent des situations difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup de Chinois qui sont un peu parqués comme ça aussi dans leur ville, qui ne peuvent pas sortir avec tout ce qui se passe maintenant avec ce virus. Et ça aussi, ça peut être aussi stressant, angoissant, de réaliser que, voilà, ils vivent aussi des temps difficiles et on peut aussi prier pour eux. Il y a beaucoup d'informations par rapport au changement climatique. C'était aussi un des thèmes du forum de Davos. Et puis, c'est vrai qu'on peut se dire, mais on est noyé par toutes ces informations, par tout ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, face à ces tempêtes, ben, il y a quand même assez peu d'encouragement à regarder à l'essentiel. Et puis, c'est ce qu'on a fait il y a déjà quelques semaines avec Francesco. Il nous a parlé du shalom, du Shabbat, de s'arrêter, de se reposer. Alors, je ne sais pas si déjà depuis le début de l'année, vous avez pu vous reposer, vous arrêter. Et puis avec David, il y a 2 semaines aussi, on a vu le fait aussi de pouvoir prendre et goûter Jésus comme le pain de jour, le pain de vie. Pouvoir goûter à Jésus. Pouvoir aussi, comme Loïc nous l'a dit, mais se laisser renouveler par l'Esprit chaque jour. Et ce matin, j'aimerais me plonger avec vous dans la parole et puis essayer de trouver aussi autre chose, un autre trésor, redécouvrir quelque chose que Dieu nous a donné, qui va pouvoir nous permettre aussi de nous arrêter. Alors je vous propose, si vous êtes prêts, un petit voyage en Israël. On remonte comme ça dans le temps et puis on va au chaud. Là, vous êtes prêts? On y va. Alors, on va aller voir dans ce texte. On a rendez-vous au puits de Jacob en Samarie. Ça vous dit quelque chose? Il y a Jésus qui est là. Je crois que c'est là. Non. Si j'ai le texte, ça m'aide. Si je l'allume, c'est mieux. Voilà, Jésus, il est là avec la Samaritaine. Et puis, non, il n'est pas en fait, il n'est pas là tout de suite avec la Samaritaine. C'est moi qui vais trop vite. Lui, il est au bord du puits, il est tout seul. Il y a ses disciples qui sont partis, ils ont été chercher à manger parce qu'ils sont fatigués. Et puis, il se repose, Jésus, il est dans ses pensées. Et on peut aussi se dire que, voilà, il parle avec Dieu. Il est en discussion intérieure. Et en même temps, peut-être que justement, lui, il sait qu'il attend quelqu'un. Nous, on ne sait pas au début dans le texte qu'il va voir quelqu'un. Et puis là-bas, tout au fond, là-bas, au loin, il voit justement cette femme qui arrive. Il fait chaud, elle a sa cruche sur la tête. Et elle arrive, elle marche gentiment. Et elle arrive jusqu'au puits, mais bien sûr, c'est tout juste si elle ne lève pas les yeux, parce qu'elle, de loin, elle a bien vu que lui, c'est un juif, elle, une samaritaine, donc on ne se parle pas. Et puis, elle commence à prendre de l'eau. Et Jésus fait quelque chose d'étonnant, il lui parle. Il lui dit, mais il lui demande même de l'eau. Puis elle est toute étonnée parce que là, ça ne rentre pas du tout dans les coutumes de l'époque, c'est interdit. Ce n'est pas possible. Les Juifs, ils les méprisent, ces Samaritains. Et en plus, c'est une femme, vous pensez. Mais ils discutent et au bout d'un moment, c'est même Jésus qui, lui propose de l'eau vive. Jésus commence à lui parler de choses profondes, de choses spirituelles. Elle essaye de comprendre de l'eau. Mais comment il va me donner de l'eau? Il n'a rien pour prendre de l'eau. Et alors, elle lui pose aussi des questions. Et là, on arrive à un moment, à un tournant dans le récit. Parce que Jésus, il lui dit, mais moi, je connais ton passé. Je ne vais pas m'arrêter longtemps sur son passé. Mais Jésus, en faisant cela, en fait, il lui dit, mais moi, je te connais. Et il se dévoile. Et elle comprend, mais cet homme-là, c'est pas juste un juif qui a soif, c'est un prophète. Alors ça change tout, son regard change aussi sur lui. Et elle lui pose une question, tout d'un coup ça change complètement. Elle lui dit, mais Où devons-nous adorer Dieu ? Est-ce que c'est sur le mont Garizim, là juste à côté, en Samarie, comme nos pères l'ont fait, c'est-à-dire Abraham et Jacob ? Ou est-ce que c'est comme vous, là, les Juifs, vous pensez que c'est au temple, à Jérusalem ? Les Samaritains, ils reconnaissaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Donc c'est vrai qu'ils avaient une révélation réduite de Dieu. Alors je vous propose de lire la suite du texte dans la Bible. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Nos pères, ils ont adoré sur cette montagne-là. Mais vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Je crois que je vais poser le micro. Mais l'heure vient, merci, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Alors Jésus donne une réponse très surprenante à cette question, puisqu'elle lui dit, mais en fait, il faut adorer là ou là. Et lui, il dit, mais c'est pas un lieu. Maintenant, c'est pas un lieu, c'est pas ce qui compte, c'est d'adorer à la Frate, ou d'adorer ici à Jérusalem, ou d'adorer sur cette montagne. Ce qui compte, en fait, c'est d'adorer depuis notre cœur, depuis notre esprit. Et ça, c'est vraiment une révélation et c'est une révolution. En plus, il enseigne ça, quand même quelque chose de tellement important, à une femme en privé, seule à seule. En quelque sorte, il inaugure un temps nouveau à travers cet échange. Ce n'est plus des sacrifices et des animaux qu'il faut apporter, mais notre adoration à Dieu. Et puis il dit ça à une non-juive, elle est samaritaine. Donc il ouvre la porte aussi, finalement, à ce que nous, les païens, qu'on était avant en tout cas, eh ben, on peut aussi adorer Jésus. Ce n'est plus réservé aux hommes d'avoir le droit de rentrer au temple, mais chacun, chaque personne, chaque femme peut adorer Dieu. Et puis, il ajoute quelque chose de très dur, Jésus. Il lui dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est une claque. Alors que nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est quand même pas une déclaration facile à entendre, quoi. Voilà, tous les dimanches, vous allez là, vous faites ça, mais non, non, vous n'adorez pas Dieu. Il ajoute, les vrais adorateurs adoreront le Père. Il ne dit pas que les Juifs uniquement. Il ne dit pas ceux qui jouent d'un instrument, ceux qui dirigent la louange. En fait, tout le monde, on est tous appelés à adorer Dieu. Alors les vrais adorateurs, ben, pour adorer le Père, il faut le connaître. Pour connaître le Père, il faut aussi connaître le Fils. Et Dieu nous appelle à être des vrais adorateurs, des vraies adoratrices de Dieu. Et il ne dit pas, ben, il faut adorer le Messie qui va venir, sous-entendu moi. Non, en fait, l'adoration, il nous appelle en fait à la tourner vers Dieu le Père. Comme la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux ». Nous sommes appelés à adorer le Père. Mais alors, adorer Dieu en esprit, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est esprit et nous pouvons l'adorer avec notre esprit. Ce qui compte justement, ce n'est pas les rites, mais c'est de chercher cette communion avec Dieu, de chercher ce cœur à cœur. L'esprit, c'est cette partie de nous qui naît quand justement on rencontre Dieu. Juste dans le chapitre d'avant, il y a eu la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et puis, Jésus, il a dit à Nicodème, « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu
s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Lors de notre nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. C'est cet Esprit qui nous permet de dire « Mais Abba Père », qui nous permet de l'adorer. Et dans la parole, justement, on voit et on lit plein de qualificatifs de Dieu. On peut l'adorer parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Roi, parce qu'il est éternel, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Mais adorer Dieu aussi en vérité, ça veut dire adorer Dieu en étant vrai, en étant authentique, comme on est aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état vous êtes arrivé. On a commencé déjà à louer Dieu, on va le faire encore après. Ben, tel qu'on est, avec peut-être nos soucis, toutes ces choses-là qui sont en nous, qui nous occupent, qui nous préoccupent, on peut aussi les déposer devant lui. Et Dieu, c'est vrai, il voit aussi nos cœurs. C'est quand on l'adore, on est vraiment dans une attitude de respect, de louange, d'adoration, où parfois, on est peut-être un peu ailleurs. Et puis, moi, je me suis dit, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que nous, on adore vraiment le Dieu qu'on connaît ? Jusqu'à quel point on connaît Dieu ? Finalement, chacun, on connaît un peu de Dieu, mais on est en chemin, on est en route. Connaissons-nous Dieu ? Et est-ce que nous l'adorons ? Comment l'adorons-nous ? Adorer Dieu. Finalement, que signifie ce mot « adorer » ? Dans ce passage, il est utilisé 10 fois. Adorer, adoration, adorateur. C'est le thème central de ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine. En grec, adorer, c'est carrément se prosterner en signe de respect et de soumission totale. C'est vraiment s'abaisser devant Dieu. Alors c'est vrai, dans les textes de l'Ancien Testament, parfois il y a des prophètes qui ont reçu une révélation, un ange, et tout d'un coup ils se prosternent devant Dieu. Je relisais le début de l'Apocalypse, je me demandais si c'était l'adoration, mais là Jean, il est tellement touché par la vision qu'il tombe à terre, c'est marqué, il est presque mort. C'est presque encore plus que de l'adoration. Là. Il y a un ange qui a dû le toucher, tellement c'était fort. Mais il y a quelque chose de... Quelque part, c'est l'adorer en esprit, donc c'est de notre cœur, de notre esprit, puis en même temps, c'est tout notre être. Ça peut être aussi justement se mettre à genoux, se coucher. Alors c'est vrai qu'à la frate, on ne fait pas trop, hein. Mais peut-être chez vous, je ne sais pas, en tout cas, moi je vous encourage à aussi, pourquoi pas, adorer Dieu, même avec notre corps, avec qui nous sommes, pour dire, mais je me soumets à toi. Et toi, je reconnais que tu es Dieu et je veux t'adorer. C'est vrai que les catholiques, parfois, quand ils, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais quand ils sont ordonnés prêtres, il y a des images, j'ai trouvé sur Internet, les prêtres, ils sont carrément couchés au sol comme ça, en face de l'autel, en signe de consécration totale à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce terme « adorer », il est aussi utilisé. On vient de vivre Noël, puis les mages, ils sont venus adorer Jésus. Ils sont venus se prosterner devant Jésus. Il y a aussi Pierre, à un moment, il est dans le bateau, et puis Jésus lui dit « Mais lancez vos filets !» Ils lancent les filets, ils avaient pêché toute la nuit sans rien, et au moment où ils sortent les filets, Pierre, là, il dit à Jésus, mais il se tombe à genoux devant Jésus. Il adore, il se prosterne. Et il dit, mais Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il est tellement touché de réaliser, mais oui, c'est Dieu qui est là devant moi. Il réalise sa condition. Après la résurrection de Jésus, il y a Marie de Magdala et l'autre Marie aussi. Elles ont été au tombeau, elles ont vu un ange et l'ange leur a dit, Jésus est ressuscité. Alors elles courent, elles sont là, elles sont pleines de joie et de crainte. Et en même temps, alors qu'elles courent annoncer la bonne nouvelle, rencontre Jésus et qui les salue, et Jésus leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles lui saisissent les pieds et elles se prosternent devant Jésus. Juste quelques versets plus loin, quant aux 12 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Alors, pourquoi pas nous aussi ? Apprenons à adorer Dieu, à découvrir qu'on peut aussi le faire avec notre voix, avec nos mots et aussi avec notre corps. Adorer, de manière plus générale, dans le dictionnaire, le petit Robert, il nous dit qu'adorer, c'est rendre un culte à Dieu ou à une divinité. Et puis c'est aussi manifester un amour fervent, un culte passionné pour quelqu'un. Alors c'est vrai que nous aussi, on rend tous les dimanches un culte à Dieu. Mais je me dis, est-ce qu'on le fait toujours avec passion, avec plein d'amour, avec adoration ? Ben, peut-être pas toujours avec autant de ferveur. Et puis je pense qu'on est encouragé à continuer à apprendre à adorer Dieu. Être centré sur Dieu et l'adorer, ben, ça ne va pas de soi. Lorsque Jésus il a passé 40 jours dans le désert, après son baptême et avant le début de son ministère, il y a eu ce temps où il a été tenté par le diable. Et la dernière tentation de Jésus, le diable, il l'a transporté Jésus sur une montagne très élevée. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis le diable a dit à Jésus, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Si je peux voir la suite. Moi, je vais le lire simplement. C'est pas grave. Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors, le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent, en Matthieu 4. Moi, je me dis, mais le diable, il a osé demander à Jésus qu'il l'adore. C'est quand même vraiment hyper gonflé, quoi, de demander l'adoration de Jésus. Alors que Jésus, lui, il sait qu'il a déjà tous les royaumes, tout lui appartient, et il sait que même il vient sur la terre et qu'à la croix, il va mettre à mort, justement, la mort et le diable. Il va vaincre la mort. Et Jésus l'a même proclamé que lui-même, son adoration, il la donne au Père, il la consacre au Père. Alors oui, c'est vrai que nous, comme Jésus, on peut dire on a un combat à mener. Le diable, il cherche aussi notre adoration à nous tenter. C'est pas que Jésus, finalement, qui cherche à être adoré. Notre ennemi aussi. Mais c'est rare que le diable vienne nous dire « Allez, s'il te plaît, adore-moi. » Il est un peu plus rusé. Il essaye de nous faire adorer d'autres choses, comme l'argent. Il y en a, ça peut être un chanteur, un sportif. Mais ça peut être aussi encore plus ambigu. Ça peut être adorer la louange, adorer un chant, alors que finalement, notre adoration, elle est censée être sur Dieu seul. Alors, quelque part, on a un choix à faire. On a à se positionner puis à se dire, mais c'est Dieu, c'est toi seul que je veux adorer. C'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux aimer. Et parfois, pour entrer dans l'adoration, ça peut être aussi important de prendre autorité sur ses pensées puis de dire, mais Seigneur, moi, je prends autorité en ton nom, Jésus, et je mets toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que parfois, nos pensées, elles partent. Parfois, on a des soucis. Moi, j'avoue, ce qui m'aide aussi, c'est de dialoguer avec Dieu dans les temps de louange, de lui parler, de lui dire, mais moi, Seigneur, je t'aime, ou lui dire ce qu'il y a dans mon cœur, de partager avec lui, d'entrer dans cette communion, dans ce dialogue. Et puis plus on découvre Dieu, plus on sait qui il est, plus on découvre dans sa parole qui il est, plus, je ne sais pas vous, mais on a envie de l'adorer, on a envie de lui dire, mais merci, on a envie de lui dire, mais tu es tellement, tellement grand, tu es tellement bon, et c'est tellement excellent d'être dans ta présence. Et dans la Bible, il y a plein de textes qui nous encouragent à l'adorer, qui nous encouragent à le louer. Je pense surtout aux psaumes, il y a énormément de psaumes qui commencent par « louer l'Éternel ». Beaucoup de psaumes, en fait, c'est des chants, ce sont des prières, ce sont justement des louanges à Dieu, et puis plein de façons de louer et d'adorer Dieu en fonction de qui il est. Dieu créateur, Dieu qui fait des miracles, Dieu qui est notre bouclier. Alors si vous manquez d'inspiration le matin ou chez vous, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir la Bible, prendre un psaume, et puis là vous allez avoir plein d'idées pour adorer Dieu. Le psaume 99, il nous dit « Exaltez le Seigneur, notre Dieu, et prosternez-vous vers sa montagne sacrée, car il est saint, le Seigneur, notre Dieu. » On peut adorer avec notre voix, avec des instruments, avec nos gestes, en priant en langue, en chantant, en dessinant, en se prosternant. Mais finalement, ce qui compte, c'est vraiment l'attitude de notre cœur. C'est comment on se présente à Dieu. Jésus nous dit que le Père recherche de vrais adorateurs. Mais pourquoi finalement adorer Dieu? On pourrait dire parce qu'il nous le demande, c'est le premier commandement. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est parce qu'il en a besoin. Est-ce qu'il aurait besoin de notre louange, d'être flatté, loué? Moi, je crois que c'est surtout parce que Dieu sait que cela ouvre des chemins dans nos cœurs quand on adore Dieu. Et que c'est nous, finalement, qui avons besoin de proclamer qui il est, de nous rappeler sa grandeur, de nous rappeler qu'il est là, qu'il est présent à nos côtés, qu'il est puissant, qu'il est plein de bonté. Louer Dieu et l'adorer, ça nous permet aussi de rester dans cette attitude confiante, ça nous permet d'être remplis, comme on l'a vu ce matin, et puis de, tout d'un coup, je ne sais pas, les choses, elles deviennent moins importantes, on les voit plus petites. Parce que quand on réalise que Dieu, il est là avec nous, qu'on est tellement centré sur lui, des fois, j'ai l'impression que c'est comme si le temps, il s'arrête. Tout le reste, c'est comme si ça s'affaiblit, ça prend moins d'importance. Et surtout, nous adorons Dieu parce que lui, il en est digne. Lui seul, il est saint, il est pur, il est juste, et il est plein d'amour envers nous. Et au quotidien, alors on adore Dieu le dimanche matin, est-ce qu'on adore Dieu pendant la semaine? Peut-être on prend du temps déjà pour lire la Bible, pour prier, mais pour l'adorer. Pour ma part, souvent je constate que je suis vite prise par des soucis, par des stress, par toutes les choses que je pense à faire. Le matin, quand il faut aller à l'école, mon fils il m'énerve parce que souvent, au moment de partir, c'est là qu'il joue, il me pose des questions. J'avoue, de rester calme et dans une attitude de louange, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, Dieu, il cherche des adorateurs qui l'adorent, en esprit, en vérité. Alors, c'est vrai, pendant nos journées, on peut quand même tourner nos regards vers lui, faire monter une prière, chanter un chant, lui dire justement qu'on l'aime. Ou faire appel à lui dire « Oh, au secours, je me sens débordée, là. C'est la fin de la journée, les enfants, ils crient. » C'est pas toujours évident. Et en même temps, je réalise que quand je m'arrête, quand je prends du temps avec Dieu, mais ça fait tellement aussi du bien et ça me met tellement dans la joie aussi de pouvoir louer Dieu. Tout à l'heure, je descendais en vélo puis je me suis dit, ah bah tiens, je loue Dieu. Je loue Dieu de ce qu'il est là, de ce qu'il est présent aussi avec moi. Et c'est vrai, c'est tellement bon d'être dans sa présence. Alors je me réjouis qu'on va continuer de le louer maintenant. Et je vous encourage à continuer de le faire jour après jour, de grandir dans votre cœur d'adorateur, d'adoratrice. Et Dieu, c'est vrai, nous dit aussi dans sa parole, quand on s'approche de Dieu, lui, il s'approche de nous. Ça, c'est tellement encourageant. Et je réalisais aussi que finalement, chacun en apporte notre propre adoration. L'adoration de Matthieu, même s'il est fatigué après les flambeaux, là, ce ne sera pas la même que la mienne, que celle de Loïc, que celle d'Éric, que celle de Claudia. Ou chacun d'entre nous, avec qui nous sommes, on peut apporter une adoration. Et si quelque part on n'adore pas Dieu, ben c'est comme une adoration qu'il n'aura pas. Parce que nous, on est chacun unique, on a chacun notre vécu. Alors entendons-nous l'appel de notre Père. Il cherche de vrais adorateurs. Alors je vous laisse, dans le silence de vos cœurs, répondre à son appel. Et on peut entrer encore dans ce temps d'adoration. Soyez bénis.